Ici, vous voyez le sommet. Et je commence avec les généralités, l'histoire de convention cadre de la lutte anti-tabac. On voit bien que la consommation du tabac est toujours influencée par différents moyens. Un de ces moyens, c'est la législation. Et encore, on a des grands problèmes de prévalence du tabagisme chez l'homme et la femme. Si on regarde ce qui s'est passé en 1996, en Europe et partout. Et bien sûr, on a des clés de stratégie pour la lutte anti-tabac. La plupart de ces clés sont liées à la législation sur les taxes, sur la protection des exposés passifs au tabac. L'Europe consomme un quatrième de la production des cigarettes. Et en même temps, on a dans l'Europe le plus élevé taux de décès à cause du tabagisme passif. On voit bien le tabagisme passif est au milieu du point de vue statistique en Europe à ce moment. Mais encore dans les espaces publics dédiés aux enfants, on a un grand exposé dans les lieux publics, mais aussi secondaire à la maison. Concernant la francophonie, si on pense que le français est la cinquième langue la plus parlée au monde et que 85% de ces francophones seront en Afrique du fait de la croissance démographique, on doit aborder un peu tous les pays francophones, mais d'une autre manière, en regardant sur les continents en général. Si on regarde encore cette convention, on voit bien d'autres choses. Entre les pays non signataires francophones se trouvent Maroc, Suisse, Monaco, Mozambique. Je parle seulement des pays francophones. Et, la plupart de la population mondiale est apparemment couverte par cette convention. Mais en réalité, le stade actuel de la mise en application, si on veut analyser l'article 8 et l'article 11, on voit que c'est appliqué dans plus de 65% pour les plus de 126 parties analysées. Et en ce qui concerne l'autre article 18, la protection de l'environnement, c'est moins de 25%. Quels sont les continents avec leurs problèmes? Si on regarde l'Europe, ici, ce rapport de l'European Commission a démontré qu'on a un grand exposé au tabagisme passif à maison et dans les places de travail. Et depuis les années 80, on a essayé de réglementer les produits du tabac. La directive sur le produit du tabac est aussi connue, la directive sur la publicité en faveur de produits du tabac. Mais ces progrès législatifs sont très différents d'un pays à l'autre. Pratiquement tous les pays mènent une politique anti-tabagisme, mais celle-ci est plus ou moins stricte. La production est passée à ce moment de l'ouest à l'est de l'Europe et aussi l'intérêt de l'industrie du tabac est passé à l'est. Et c'est important parce qu'on a vu c'est une corrélation très bonne avec la prévalence. Même si la ratification de la convention a été faite il y a 10 années, on a des problèmes à implémentation de cette convention parce que on trouve dans l'Eurobaromètre qui a été publié quelques jours avant un grand nombre de fumeurs d'Europe et en même temps un grand pourcentage d'exposants au tabac qui fument passif dans le restaurant. Un autre grand problème, c'est la législation concernant les messages d'avertissement qui ont déjà établi doivent couvrir 65% de la surface de paquets de cigarettes, mais bien sûr, l'opposition de l'industrie est très, très importante. Et si on regarde les pays verts qui ont fait un grand progrès dans les dernières années, on trouve seulement la France entre les premières 10 pays de l'Europe. Où nous sommes en Europe, je dois reproduire ce qui disait Bertrand Dotzenberg, l'Europe n'est sauf exception, plus le continent moteur en matière de lutte contre le tabac. En conclusion, certains pays européens, en particulier non francophones, si on pense au Royaume-Uni et Irlande, ont fait des progrès. La plupart des pays ont encore un long chemin à parcourir. Mais certains peuvent réduire les taux de tabagisme de plus de 50%, en particulier les pays de l'Est. À l'Afrique, en 2004, il existait le manque de législation, l'absence de ou le non-respect de la législation contre le tabagisme, et les principales cibles, comme on a vu avant, étaient les jeunes et les femmes. Le gouvernement était souvent impuissant. C'était pour ça que l'Afrique était le nouvel Eldorado des cigarettières. Ici, on peut voir quelles étaient les exigences sur l'interdiction de publicité, de promotion et de parrainage dans différents pays. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et aussi, si on pense à d'autres paragraphes de la législation, on voit bien qu'il existe une entièrement nouvelle loi en Ghana et Nigérie, une amélioration d'une législation précédente plus faible et non conforme à la Convention dans Burkina Faso, Tanzanie et Zambie. Bien sûr, les politiques sont parfois présentes, mais non pas appliquées. Et ici, c'est une autre confirmation en ce qui concerne l'Afrique francophone subsaharienne, ce qui manque et qui est très important du point de vue législatif dans tous ces pays. Les conséquences du tabagisme en Afrique, dans les pays francophones, comme on voit bien, il augmente. Il est présent partout chez les jeunes. Et pour les pays, même s'il existe une fébrilité qui accompagne la promulgation d'une législation exhaustive, les partisans de la lutte anti-tabac sont souvent confrontés à la dure réalité de la mise en œuvre de l'application. Et si on analyse la législation de contrôle du tabagisme, on voit bien qu'il y a trois pays qui disposent actuellement d'une législation de contrôle du tabagisme, incluant les politiques d'environnement sans fumée. Et cette législation a été pour un bon part inefficace pour les autres pays et que son application a été la plupart du temps inexistante. La législation aussi a d'autres problèmes. Les seuls, Mali et Sénégal, ont une législation qui interdit de faire de la publicité dans les médias ou de fumer dans les lieux publics. Les autres adoptent des réglementations, mais qui ne sont pas appliquées. Mais au bout du compte, le Mali, c'est un bon exemple, et le seul pays qui a entrepris une politique anti-tabac, et cela semble avoir porté des fruits. Quelles sont les faiblesses dans les pays d'Afrique? Insuffisance d'expertise en matière de la lutte anti-tabac, insuffisance de personnes formées en matière de la lutte. Les acteurs, parfois, manquent des connaissances pour la subtilité des industries de tabac et l'insuffisance des connaissances du phénomène d'information tabagique dans ces pays qui ne permet pas une planification fine des interventions. En conclusion, l'Afrique a été un champion pour l'élaboration de conventions cadres, mais la législation est faible, voire non existante dans quelques pays, avec des limites et peu respectées. Les mécanismes de sanctions en cas d'infraction sont rarement mis en place. L'Amérique, le Canada, ici, ce sont des grands progrès si on analyse le pays en ensemble. On voit la loi fédérale qui interdit de fumer dans tous les lieux de travail du gouvernement fédéral. Concernant le Québec, il est doté d'une loi anti-tabac très étendue, avec des choses très importantes incluses en 2006, ce qui interdit l'usage du tabac dans presque tous les lieux publics depuis la réforme de 2005. Ce qui est très important, c'est l'interdiction de fumer dans tous les lieux de travail, tous les lieux publics fermés et dans un rayon de 9 mètres en dehors des services de santé et sociaux. Et ce qui est très récemment, interdiction des cigarettes mentholées, c'est pour la première fois qu'un pays fait ça. Mais il reste d'autres provocations pour éliminer le tabac des prisons du Québec. Ça va arriver l'année prochaine. Et en même temps, on se pose le problème d'une révision imminente de la loi sur le tabac. Il est temps de préparer une dernière loi qui est très plus forte, probablement. Particulièrement, ce que c'est probablement à analyser pour les prochaines années, c'est que l'État canadien taxe faiblement les cigarettes contrairement aux autres pays limitrophes. C'est pour ça qu'il prend des mesures pour stopper le phénomène de contrebande qui est présent dans différentes frontières, mais surtout entre le Canada et les États-Unis. L'Asie francophone, ici vous voyez la carte des places sans fume dans ces pays asiatiques. On voit bien que Les interdictions sont variables selon les pays, concernant la publicité directe et indirecte, mais aussi concernant les médias électroniques et les points de vente. Ce qui est important, c'est au Cambodge, en principal, et au Laos, les bagodes sont maintenant sans tabac. Il existe des lieux de travail sans fumée, circulation ont été mis en œuvre dans le ministère de santé et de l'éducation, de plusieurs autres ministères et de forces armées. Actuellement, existe une loi nationale anti-tabac, mais le Vietnam est un exemple positif parce qu'il ne suffit pas de signer la convention, il faut avoir des lois. Ici, vous voyez, il existe des lois avec des restrictions du droit de fumer dans le lieu public, interdiction de la vente de tabac aux mineurs, interdiction de la vente dans les écoles, établissements médico-sanitaires, administrations publiques. Les politiques peuvent changer, on doit renforcer bien sûr cette législation, on peut faire avec l'initiative Bloomberg, on a fait des campagnes de médias. En conclusion, les États ont signé la convention, il y a une coordination des actions anti-tabac dans les ministères, mais l'application des recommandations a été lente et reste partielle. Et j'ai choisi à la fin des bons et mauvais exemples, c'est concernant France, c'est l'exemple d'interférences politiques dans la politique de tabac, c'est pendant la présidence de Jean Chirac avec le plan des cancers et pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, le deuxième plan des cancers qui était un peu relaxé. Et on voit bien ce qui a présenté le professeur Dotzenberg à un congrès de l'European Respiratory Society. On voit bien comment on a réalisé le relancement de prévalence du tabagisme sur les adolescents de 12 à 15 ans, mais aussi de 16 à 19 ans. Ils sont aussi de bonnes nouvelles si on pense à l'actualité de la lutte anti-tabac actuellement analysée avec une stratégie en progrès avec 15 propositions choc de la loi que je crois qu'ils sont toujours applicables dans ce moment. Concernant l'Afrique francophone, c'est l'IDRISA, le premier sport anti-tabac développé spécifiquement avec un bon écho dans Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal et au Bénin. Et d'autres projets où les initiateurs sont Gates Foundation et Bloomberg qui travaillent et actionnent très bien dans beaucoup des pays de l'Afrique. Et bien sûr, la chance est un fort partenariat de ces organisations, de la société civile qui peuvent couvrir cet aspect et un soutien des chercheurs qui fournissent les éléments pertinents aux activistes, la mise à disposition de ressources non seulement pour changer de politique mais également pour mettre en œuvre et faire appliquer de nouveaux programmes. En conclusion, on a besoin partout des politiques cohérentes, l'unification des forces anti-tabagisme, la participation de la population dans les campagnes anti-tabagisme, on doit les éduquer pour avoir l'acceptation de loi, le dévoilement des corrompus parmi les politiciens, l'augmentation du niveau d'assistance antitabagique. Il existe un effet qu'on attend de la Convention, c'est l'impact sur le pourcentage de décès. Et parce qu'on parle on parle beaucoup dans les médias sur le endgame, je peux dire qu'il peut être utilisé à la fois comme épée et bouclier. L'industrie s'est déjà regroupée et on a déjà des procès parce qu'ils ont essayé d'empêcher ce procès. Et sur la carte de l'Europe sans fumée en 2011, si on regarde ce qui se passe, je crois qu'on a le droit de rêver. C'est la carte pour planifier pour 2020. Et en même temps, avant de vous remercier pour attention, j'espère bien que tous ceux qui sont dans la salle, mais tous les autres collègues des pays francophones, vont avoir toujours un œil sur la lutte anti-tabac, pas seulement cet œil des paquets de cigarettes. Je vous remercie.
Merci, docteur Dumitru, pour une présentation qui mène à beaucoup de réflexions. Merci.